Chapitre 6 Le songe. Le bien de la fortune est un bien périssable. Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable. Plus on est élevé, plus on court de danger. Les grands pins sont en butte au coup de la tempête. Racan. Les vergers languissants, altérés de chaleur, balancent des rameaux dépourvus de feuillage. Il semble que l'hiver ne quitte pas les cieux. Maria, Jules Lefèvre. Cependant, Saint-Marc, au milieu de la mêlée que son emportement avait provoquée, s'était senti saisir le bras gauche par une main aussi dure que le fer, qui, le tirant de la foule jusqu'au bas des degrés, le jeta derrière le mur de l'église et lui fit voir la figure noire du vieux Grandchamp, qui dit d'une voix brusque « Monsieur, ce n'était rien que d'attaquer 30 mousquetaires, une fois à Chaumont, parce que nous étions à quelques pas de vous sans que vous l'ayez su, que nous vous aurions aidé au besoin et que d'ailleurs vous aviez affaire à des gens d'honneur. Mais ici, c'est différent. Voici vos chevaux et vos gens au bout de la rue. Je vous prie de monter à cheval et de sortir de la ville, ou bien de me renvoyer chez Madame la Maréchale, parce que je suis responsable de vos bras et de vos jambes que vous exposez bien lestement. » Saint-Marc, quoique un peu étourdi de cette manière brusque de rendre service, ne fut pas fâché de sortir d'affaire ainsi, ayant eu le temps de réfléchir au désagrément qu'il y aurait d'être retenu pour ce qu'il était après avoir frappé le chef de l'autorité judiciaire et l'agent du cardinal même qui allait le présenter au roi. Il remarqua aussi qu'il s'était assemblé autour de lui une foule de gens de la lie du peuple, parmi lesquels il rougissait de se trouver. Il suivit donc sans raisonner son vieux domestique et trouva en effet les trois autres serviteurs qui l'attendaient. Malgré la pluie et le vent, il monta à cheval et fut bientôt sur la grande route avec son escorte, ayant pris le galop pour ne pas être poursuivi. À peine sorti de Loudun, le sable du chemin, sillonné par de profondes ornières que l'eau remplissait entièrement, le força de ralentir le pas. La pluie continuait à tomber par torrents et son manteau était presque traversé. Il en sentit un plus épais recouvrir ses épaules. C'était encore son vieux valet de chambre qui l'approchait et lui donnait ses soins maternels. « Eh bien, Grandchamp, à présent que nous voilà hors de cette bagarre, dis-moi donc comment tu t'es trouvé là, dit Saint-Marc, quand je t'avais ordonné de rester chez l'abbé. « Parbleu, monsieur, répondit d'un air grondeur le vieux serviteur, croyez-vous que je vous obéisse plus qu'à monsieur le maréchal? Quand feu mon maître me disait de rester dans sa tente et qu'il me voyait derrière lui dans la fumée du canon, il ne se plaignait pas parce qu'il avait un cheval de rechange quand le sien était tué et il ne me grondait qu'à la réflexion. Il est vrai que pendant 40 ans que je l'ai servi, je ne lui ai jamais rien vu faire de semblable à ce que vous avez fait depuis 15 jours que je suis avec vous. « Ah » ajouta-t-il en soupirant, « nous allons bien, et si cela continue, je suis destiné à en voir de belles, à ce qu'il paraît. » « Mais sais-tu, Grandchamp, que ces coquins avaient fait rougir le crucifix et qu'il n'y a pas d'honnête homme qui ne se fût mis en fureur comme moi ?» « Excepté, monsieur le maréchal, votre père, qui n'aurait point fait ce que vous faites, monsieur. » « Et qu'aurait-il donc fait ?»« Il aurait laissé brûler très tranquillement ce curé par les autres curés et m'aurait dit, « Grandchamp, aie soin que mes chevaux aient de l'avoine et qu'on ne la retire pas. » Ou bien, « Grandchamp, prends bien garde que la pluie ne fasse rouiller mon épée dans le fourreau et ne mouille l'amorce de mes pistolets. » car monsieur le maréchal pensait à tout et ne se mêlait jamais de ce qui ne le regardait pas. C'était son grand principe. Et comme il était, Dieu merci, aussi bon soldat que général, il avait toujours soin de ses armes comme le premier lansquenet venu, et il n'aurait pas été seul contre 30 jeunes gaillards avec une petite épée de balle. Saint-Marc sentait fort bien les pesantes épigrammes du bonhomme, et craignait qu'il ne l'eût suivi plus loin que le bois de Chaumont. mais il ne voulait pas la prendre de peur d'avoir des explications à donner ou un mensonge à faire ou le silence à ordonner, ce qui eût été un aveu et une confidence. Il prit le parti de piquer son cheval et de passer devant son vieux domestique. Mais celui-ci n'avait pas fini, et au lieu de marcher à la droite de son maître, il revint à sa gauche et continua la conversation. « Croyez-vous, monsieur, par exemple, que je me permette de vous laisser aller où vous voulez sans vous suivre ?»« Non, monsieur, j'ai trop avant dans l'âme le respect que je dois à madame la marquise pour me mettre dans le cas de m'entendre dire « Grandchamp, mon fils a été tué d'une balle ou d'un coup d'épée, pourquoi n'étiez-vous pas devant lui ?» Ou bien « Il a reçu un coup de stylet d'un Italien parce qu'il allait la nuit sous la fenêtre d'une grande princesse. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté l'assassin ?»« Cela serait fort désagréable pour moi, monsieur, et jamais on n'a rien eu de ce genre à me reprocher. » Une fois, monsieur le maréchal me prêta à son neveu, monsieur le comte, pour faire une campagne dans les Pays-Bas, parce que je sais l'espagnol. Eh bien, je m'en suis tiré avec honneur, comme je le fais toujours. Quand monsieur le comte reçut son boulet dans le bas-ventre, je ramenai moi seul ses chevaux, ses mulets, sa tente et tout son équipage, sans qu'il manquât un mouchoir, monsieur. Et je puis vous assurer que les chevaux étaient aussi bien pansés et harnachés en rentrant à Chaumont que si monsieur le comte eût été prêt à partir pour la chasse. Aussi n'ai-je reçu que des compliments et des choses agréables de toute la famille, comme j'aime en en entendre dire. « C'est très bien, mon ami, » dit Henri Defiat. « Je te donnerai peut-être un jour des chevaux à ramener. Mais en attendant, prends donc cette grande bourse d'or que j'ai pensé perdre deux ou trois fois, et tu paieras pour moi partout. Cela m'ennuie tant. » Monsieur le maréchal ne faisait pas cela, monsieur. Comme il avait été surintendant des finances, il comptait son argent de sa main. Et je crois que vos terres ne seraient pas en si bon état et que vous n'auriez pas tant d'or à compter vous-même s'il eût fait autrement. Ayez donc la bonté de garder votre bourse, dont vous ne savez sûrement pas le contenu exactement. » « Ma foi, non. » Grandchamp fit entendre un profond soupir à cette exclamation dédaigneuse de son maître. « Ah, monsieur le marquis, monsieur le marquis, quand je pense que le grand roi Henri, devant mes yeux, mis dans sa poche ses gants de chamois parce que la pluie les gâtait, quand je pense que monsieur de Rosny lui refusait de l'argent quand il en avait trop dépensé, quand je pense, quand tu penses, tu es bien ennuyeux, mon ami, interrompit son maître, et tu ferais mieux de me dire ce que c'est que cette figure noire qui semble marcher dans la boue derrière nous. Je crois que c'est quelque pauvre paysanne qui veut demander l'aumône. Elle peut nous suivre aisément, car nous n'allons pas vite avec ce sable où s'enfoncent les chevaux jusqu'au jarret. Nous irons peut-être aux Landes un jour, monsieur, et vous verrez alors un pays comme celui-ci, des sables et de grands sapins tout noirs. C'est un cimetière continuel à droite et à gauche de la route, et en voici un petit échantillon. Tenez, à présent que la pluie a cessé et qu'on y voit un peu, regardez toutes ces bruyères et cette grande plaine sans un village ni une maison. Je ne sais pas trop où nous passerons la nuit. Mais si monsieur me croit, nous couperons des branches d'arbres et nous bivouaquerons. Vous verrez comme je sais faire une baraque avec un peu de terre. On a chaud là-dessous comme dans un bon lit. J'aime mieux continuer jusqu'à cette lumière que j'aperçois à l'horizon, dit Saint-Marc, car je me sens, je crois, un peu de fièvre et j'ai soif. Mais va-t'en derrière, je veux marcher seul. Rejoins les autres et suis-moi. » Grandchamp obéit et se consola en donnant à Germain, Louis et Étienne des leçons sur la manière de reconnaître le terrain la nuit. Cependant, son jeune maître était accablé de fatigue. Les émotions violentes de la journée avaient remué profondément son âme. Et ce long voyage à cheval, ces deux derniers jours presque sans nourriture, à cause des événements précipités, la chaleur du soleil, le froid glacial de la nuit, tout contribuait à augmenter son malaise, à briser son corps délicat. Pendant 3 heures, il marcha en silence devant ses gens, sans que la lumière qu'il avait vue à l'horizon parût s'approcher. il finit par ne plus la suivre des yeux, et sa tête, devenue plus pesante, tomba sur sa poitrine. Il abandonna les rênes à son cheval fatigué, qui suivit de lui-même la grande route, et, croisant les bras, il se laissa bercer par le mouvement monotone de son compagnon de voyage, qui butait souvent contre de gros cailloux jetés par les chemins. La pluie avait cessé, ainsi que la voix des domestiques, dont les chevaux suivaient à la file celui du maître. Ce jeune homme s'abandonna librement à l'amertume de ses pensées. Il se demanda si le but éclatant de ses espérances ne le fuirait pas dans l'avenir et de jour en jour, comme cette lumière phosphorique le fuyait dans l'horizon de pas en pas. Était-il probable que cette jeune princesse, rappelée presque de force à la cour galante d'Anne d'Autriche, refusa toujours les mains, peut-être royales, qui lui seraient offertes? Quelle apparence qu'elle se résigna à renoncer au trône pour attendre qu'un caprice de la fortune vint réaliser des espérances romanesques et saisir un adolescent presque dans les derniers rangs de l'armée pour le porter à une telle élévation avant l'âge que l'amour fut passé? Qui l'assurait que les vœux même de Marie de Gonzague eussent été bien sincères? Hélas, se disait-il, peut-être est-elle parvenue à s'étourdir elle-même sur ses propres sentiments. La solitude de la campagne avait préparé son âme à recevoir des impressions profondes. J'ai paru, elle a cru que j'étais celui qu'elle avait rêvé. Notre âge et mon amour ont fait le reste. Mais lorsqu'à la cour, elle aura mieux appris par l'intimité de la reine à contempler de bien haut les grandeurs auxquelles j'aspire et que je ne vois encore que de bien bas, quand elle se verra tout à coup en possession de tout son avenir et qu'elle mesurera d'un coup d'œil sûr le chemin qu'il me faut faire, quand elle entendra autour d'elle prononcer des serments semblables aux miens par des voix qui n'auraient qu'un mot à dire pour me perdre et détruire celui qu'elle attend pour son mari, pour son seigneur. Ah, insensée que j'ai été! Elle verra toute sa folie et s'irritera de la mienne. C'était ainsi que le plus grand malheur de l'amour, le doute, commençait à déchirer son cœur malade. Il sentait son sang brûlé se porter à la tête et la pesantir. Souvent, il tombait sur le cou de son cheval ralenti et un demi-sommeil accablait ses yeux. Les sapins noirs qui bordaient la route lui paraissaient de gigantesques cadavres qui passaient à ses côtés. Il vit, ou crut voir, la même femme vêtue de noir qu'il avait montrée à Grandchamp s'approcher de lui jusqu'à toucher les crins de son cheval, tirer son manteau et s'enfuir en ricanant. Le sable de la route lui parut une rivière qui coulait sur lui en voulant remonter vers sa source. Cette vue bizarre éblouit ses yeux affaiblis. Il les ferma et s'endormit sur son cheval. Bientôt, il se sentit arrêté, mais le froid l'avait saisi. Il entrevit des paysans, des flambeaux, une masure, une grande chambre où on le transportait, un vaste lit dont Grandchamp fermait les lourds rideaux, et se rendormit, étourdi par la fièvre qui bourdonnait à ses oreilles. Des songes plus rapides que les grains de poussière chassés par le vent tourbillonnaient sous son front. Il ne pouvait les arrêter et s'agiter sur sa couche. Urbain grandit torturé, sa mère en larmes, son gouverneur armé, Bassompierre chargé de chaînes, passait en lui faisant un signe d'adieu. Il porta la main sur sa tête en dormant et fixa le rêve qui sembla se développer sous ses yeux comme un tableau de sable mouvant. Une place publique, couverte d'un peuple étranger, un peuple du Nord qui jetait des cris de joie, mais des cris sauvages, une haie de garde de soldats farouches, ceux-ci étaient français. « Viens avec moi !» dit d'une voix douce Marie de Gonzague en lui prenant la main. « Vois-tu, j'ai un diadème. Voici ton trône. Viens avec moi !» Et elle l'entraînait, et le peuple criait toujours. Il marcha longtemps. « Pourquoi donc êtes-vous triste si vous êtes reine ? » disait-il en tremblant. Mais elle était pâle et sourit sans parler. Elle monta et s'élança sur les degrés, sur un trône, et s'assit. « Monte !» disait-elle en tirant sa main avec force. Mais ses pieds faisaient crouler toujours de lourdes solives, et il ne pouvait monter. « Rends grâce à l'amour !» reprit-elle. Et la main, plus forte, le souleva jusqu'en haut. Le peuple cria. Il s'inclinait pour baiser cette main secourable, cette main adorée. C'était celle du bourreau. « Ô ciel !» cria Saint-Marc en poussant un profond soupir. Et il ouvrit les yeux. Une lampe vacillante éclairait la chambre délabrée de l'auberge. Il referma sa paupière, car il avait vu, assise sur son lit, une femme, une religieuse, si jeune, si belle. Il crut rêver encore, mais elle serrait fortement sa main. Il rouvrit ses yeux brûlants et les fixa sur cette femme. « Ô Jeanne de Belfiel, est-ce vous ? La pluie a mouillé votre voile et vos cheveux noirs. Que faites-vous ici, malheureuse femme ? Tais-toi, ne réveille pas mon urbain. Il est dans la chambre voisine qui dort avec moi. Oui, ma tête est mouillée, et mes pieds, regarde-les, mes pieds étaient si blancs autrefois. Vois comme la boue les a souillés. Mais j'ai fait un vœu, je ne les laverai que chez le roi quand il m'aura donné la grâce d'urbain. Je vais à l'armée pour le trouver. Je lui parlerai comme Grandier m'a appris à lui parler, et il lui pardonnera. Mais écoute, je lui demanderai aussi ta grâce, car j'ai lu sur ton visage que tu es condamné à mort. Pauvre enfant, tu es bien jeune pour mourir. Tes cheveux bouclés sont beaux, mais cependant tu es condamné, car tu as sur le front une ligne qui ne trompe jamais. L'homme que tu as frappé te tuera. Tu t'es trop servi de la croix, c'est là ce qui te porte malheur. Tu as frappé avec elle et tu la portes au cou avec des cheveux. Ne cache pas ta tête sous tes draps. T'aurais-je dit quelque chose qui t'afflige ? Ou bien est-ce que vous aimez, jeune homme ? Ah, soyez tranquille, je ne dirai pas tout cela à votre ami. Je suis folle, mais je suis bonne, bien bonne. Et il y a 3 jours encore que j'étais bien belle. Est-elle belle aussi ? Oh, comme elle pleurera un jour. Ah, si elle peut pleurer, elle sera bien heureuse. » Et Jeanne se mit tout à coup à réciter l'office des morts d'une voix monotone, avec une volubilité incroyable, toujours assise sur le lit et tournant dans ses doigts les grains d'un long rosaire. Tout à coup, la porte s'ouvre. Elle regarde et s'enfuit par une entrée pratiquée dans une cloison. « Que diablesse que ceci ! Est-ce un lutin ou un ange qui dit la messe des morts sur vous, monsieur ? Vous voilà sous vos draps comme dans un linceul. » C'était la grosse voix de Grandchamp qui fut si étonnée qu'il laissa tomber un verre de limonade qu'il apportait. Voyant que son maître ne lui répondait pas, il s'effraya encore plus et souleva les couvertures. Saint-Marc était fort rouge et semblait dormir. Mais son vieux domestique jugeait que le sang lui portant à la tête l'avait presque suffoqué et, s'emparant d'un vase plein d'eau froide, il le lui versa tout entier sur le front. Ce remède militaire manque rarement son effet et Saint-Marc revint à lui en sautant. « Ah, c'est toi, Grandchamp ? Quels rêves affreux je viens de faire ! Peste, monsieur, vos rêves sont fort jolis, au contraire. J'ai vu la queue du dernier. » « Vous choisissez très bien. »« Qu'est-ce que tu dis, vieux fou ?»« Je ne suis pas fou, monsieur. J'ai de bons yeux et j'ai vu ce que j'ai vu. Mais certainement, étant malade comme vous l'êtes, monsieur le maréchal ne... »« Tu radotes, mon cher. Donne-moi à boire car la soif me dévore. »« Oh, ciel, quelle nuit ! Je vois encore toutes ces femmes. »« Toutes ces femmes, monsieur ?» « Et combien y en a-t-il ici ? Je te parle d'un rêve, imbécile, quand tu resteras là, immobile, au lieu de me donner à boire. Cela me suffit, monsieur, je vais demander d'autres limonades. » Et s'avançant à la porte, il cria du haut de l'escalier. Hey, « Hé, Germain, Étienne, Louis !» L'aubergiste répondit d'en bas. « On y va, monsieur, on y va! C'est qu'ils viennent de m'aider à courir après la folle !»«
Quelle folle ! » dit Saint-Marc, s'avançant hors de son lit.
L'aubergiste entra et, ôtant son bonnet de coton, dit avec respect.
« Ce n'est rien, monsieur le marquis. C'est une folle qui est arrivée à pied ici cette nuit et qu'on avait fait coucher près de cette chambre. Mais elle vient de s'échapper. On n'a pas pu la rattraper.
« Comment ? » dit Saint-Marc, comme revenant à lui et passant la main sur ses yeux.
« Je n'ai donc pas rêvé ?
Et ma mère, où est-elle ?
Et le maréchal ?
Et... Ah, c'est un songe affreux ! Sortez tous !»
En même temps, il se retourna du côté du mur et ramena encore les couvertures sur sa tête.
L'aubergiste, interdit, frappa trois fois de suite sur son front avec le bout du doigt en regardant Grandchamp, comme pour lui demander si son maître était aussi en délire. Celui-ci fit signe de sortir en silence. Et pour veiller pendant le reste de la nuit auprès de Saint-Marc, profondément endormi, il s'assit seul dans un grand fauteuil de tapisserie, en exprimant des citrons dans un verre d'eau, avec un air aussi grave et aussi sévère qu'Archimède calculant les flammes de ses miroirs.